Bonjour, nous sommes le lundi 28 novembre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est l'émission d'aujourd'hui qui fait dialoguer demain et hier. Le principe est simple. Deux invités qui partagent la même passion, le même métier, le même engagement. L'un est toujours jeune, l'autre encore jeune. Aujourd'hui, nos invités savent bien que même un peu de pain peut chauffer le corps à la manière d'un grand festin. Ils ont l'un et l'autre créé des entreprises d'insertion en lien avec la cuisine. Colette Rapp et Franck Chéniaud, bonjour. Sachant que Franck Chéniaud est dans les embouteillages.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Colette Rapp, bonjour. Comment vous est venue l'idée des confitures rebelles ?
Bonjour. Moi, j'étais bénévole dans une association qui s'appelle Disco Soup, qui sensibilise au gaspillage alimentaire en faisant des sessions de cuisine collective et en voyant la qualité et la quantité des fruits qui étaient jetés par les supermarchés, les marchés toutes les semaines. Je me suis dit qu'il y avait vraiment matière à créer vraiment une activité qui crée des emplois. Et voilà, j'ai créé une marque de confiture qui s'appelle Rebelle et qui a pour objectif de limiter le gaspillage alimentaire et de créer des emplois.
En quoi elles sont rebelles, vos confitures ?
Elles sont rebelles parce qu'elles sont faites avec des fruits et légumes invendus. Donc on a un peu envie de bousculer le fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des fruits et légumes qui sont produits qui ne finissent pas dans nos assiettes.
C'est lié à quoi ? C'est les légumes moches ? C'est ce qu'on appelle les légumes moches ? C'est les fruits moches ? Ou ça n'a rien à voir ?
Ça fait partie. C'est les fruits et légumes qui ne sont pas calibrés, donc du coup qui ne sont pas achetés. C'est aussi les fruits qui mûrissent trop vite dans nos frigos. Voilà, il y a tout un tas de raisons du champ à l'assiette qui font qu'on perd à toutes les étapes une partie de la production.
Et il est validé.
J'ai lu récemment en fait que les dernières initiatives sur les légumes moches, sur le retour en fait à une consommation un petit peu plus responsable, etc., avaient fait diminuer de 23% le gaspillage alimentaire dans les deux dernières années. C'est vrai ou c'est faux ?
Je connaissais pas ce chiffre. Aujourd'hui, c'est vrai que le gaspillage alimentaire, c'est devenu un sujet vraiment général. Enfin, on en parle beaucoup depuis 3 ans. Il y a des associations, il y a la loi anti-gaspi qui est passée l'année dernière. Enfin, il y a une vraie mobilisation générale.
Vous pouvez nous en parler un peu de cette loi ?
C'est une loi qui a pas mal de mesures, notamment sur la réduction du gaspillage alimentaire, qui va par exemple dire que l'objectif numéro 1, c'est de réduire à la source le gaspillage, qui va obliger des supermarchés à trouver des solutions pour leurs invendus. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures qui sont pas très contraignantes, mais en tout cas qui vont dans le bon sens. Et qui ont aussi eu pour intérêt de faire émerger ce discours, cette problématique qui est très importante sur notre système alimentaire.
Mais bien sûr, allez-y, Abeline, je ne suis pas un légume moche, vous pouvez parler.
Alors en fait, moi je me demandais sur le gaspillage alimentaire si ce n'était pas une question de génération, et particulièrement la génération de nos parents, parce que moi j'ai un souvenir ému de ma grand-mère nous montrant les photos de petits Africains en nous disant « tu finis ton assiette, pense à ceux qui n'ont pas un grain de riz ». Voilà, chose qui n'est pas arrivée dans la génération de nos parents et probablement dans notre génération qui élève des enfants aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une question générationnelle ?
Pour moi, il y a une vraie perte de notre lien avec la nourriture. En fait, on ne sait plus d'où elle vient, tous les kilomètres qu'elle a parcourus pour être dans notre assiette. On rentre dans le supermarché, on achète nos tomates en hiver. C'est normal, il n'y a plus ce lien à la terre qui fait qu'on se dit, en fait, non, les tomates, c'est en été, c'est le moment où elles sont bonnes. Et du coup, vu qu'on est déconnecté, on n'a pas forcément... on n'a plus ces repères qui font qu'on gaspille plus.
Je sais que ça ne se fait pas, mais vous avez quel âge, Colette ? Vous avez l'air très jeune.
Oui, je sais, mais j'ai 29 ans.
Ah, et vous avez fait quoi avant cette association ?
Qui fait donc très jeune.
Vous êtes très jeune. Hein ? Mais c'est quoi avant ?
J'ai bossé 2 ans dans une association qui faisait de l'accompagnement pour les demandeurs d'emploi.
Ah oui, vous avez toujours été dans l'accompagnement et dans l'insertion. Mmh. Alors, on a parlé du premier volet de votre projet qui concerne c'est ce côté légumes et fruits, comme on dit, qui ne sont pas conformes. J'ai oublié le mot, c'est pas grave. Et puis, d'un autre côté, c'est une entreprise d'insertion que vous voulez faire. Je crois qu'elle n'est pas encore complètement faite, au sens où les statuts ne sont pas déposés. Mmh. Mais vous voulez travailler avec des gens qui ont besoin de s'insérer ?
Exactement. Aujourd'hui, on produit les confitures à Romainville. On est hébergé par une entreprise d'insertion qui produit avec nous les confitures rebelles. Donc, on a créé un premier emploi pour une personne qui est en parcours d'insertion. Et l'objectif, c'est, en 2017, c'est vraiment de créer la structure rebelle, entreprise qui produira les confitures en Île-de-France et qui sera aussi agréée entreprise d'insertion.
Une entreprise d'insertion, c'est une entreprise comme une autre ? J'imagine que non, sinon on ne l'appellerait pas comme ça. Donc, est-ce que vous connaissez les spécialités ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'entreprise d'insertion ?
Alors, c'est une entreprise dans le sens où elle a un vrai service commercial. Elle vend des produits ou des services. Mais en plus de ça, elle a un objectif d'accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi vers un emploi durable en mettant en place un certain nombre d'accompagnements au sein de l'entreprise. Donc on a un conseiller d'insertion professionnelle qui va suivre à la fois les problématiques sociales ou de qualification pour la personne qui est salariée.
C'est qui les personnes typiquement qui vont venir travailler pour vous ?
Dans le 93, on va travailler avec des jeunes qui ont eu des ruptures dans leur parcours scolaire. On va travailler avec des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience en France et qui, du coup, ont des vraies difficultés, même si elles ont des diplômes à l'étranger, à trouver un emploi. Voilà.
Je vais vous poser une question très bête. Comment on les recrute ? On voit à peu près comment on recrute quelqu'un pour un poste. Là, j'imagine qu'il faut recruter quelqu'un dont on sait qu'il va pouvoir travailler avec vous. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui est inséré, c'est quelqu'un qui a une compétence potentielle.
En fait, on travaille beaucoup à la motivation. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'elle se projette sur ce métier, qu'elle a envie de se former. Voilà. Donc, il y a toujours une période aussi. Nous, on aime bien faire découvrir le métier, voir la réalité aussi de ce que c'est. Aujourd'hui, on commence par exemple la production de confiture à 6 heures. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut voir. Comment est-ce qu'on s'organise dans sa vie privée
D'ailleurs, j'ai vu vos merveilleux parfums de confiture. Ça m'a donné des idées.
Dites-nous, allez chez nous, Colette.
En ce moment, on fait pas mal de confitures de pommes oranges avec des épices. On rentre dans la période de Noël.
Potiron.
Potiron citron. Qu'est-ce qu'on a ? Après, on peut faire des confitures de tomates aussi, un petit peu. Des confitures de carottes. Puis on en a des plus classiques, de la mangue, de l'ananas.
Oui, j'ai vu. Et alors, comment vous faites, en fait, pour les faire, ces confitures, en fait ? Parce que je suppose que ce n'est pas des grands chaudrons et quelqu'un qui touille.
C'est à peu près ça.
Ah !
Aujourd'hui, on est vraiment sur une fabrication faite maison. On collecte les fruits et légumes invendus dans 10 magasins parisiens et de Seine-Saint-Denis, 2 fois par semaine. Qu'on apporte à la cuisine, on fait un tri, on sélectionne vraiment les fruits qui sont les plus beaux et prêts à être transformés.
Dans le fruit moche, il y en a des plus beaux que d'autres.
Alors nous, on travaille, on a décidé de se concentrer sur les fruits qui étaient invendus au niveau vraiment au bout de chaîne, au niveau de la commercialisation. Donc c'est des fruits qui sont abîmés, qui ne peuvent plus être commercialisés.
Que vous avez donc pour moins cher.
Et qui nous sont donnés par le supermarché ou le marché, le commerçant qui les a, puisque de toute façon, ils ne pourraient plus les vendre. Et nous, par contre, il y a tout le travail de collecte, de création des recettes qui fait qu'on va valoriser en fait, dans notre pot et dans notre offre.
Et la prochaine étape, c'est quoi ? C'est la compote ?
La compote, ça peut être une idée, ou des légumes à tartiner, des chutneys. Voilà, pour l'instant, on se concentre sur la confiture pour commencer.
C'est difficile de convaincre les supermarchés. Les supermarchés, il y a toujours, on a en tête des faits divers. Mm. Ouais, des faits divers où il y a des supermarchés qui mettent du fioul, qui préfèrent détruire que donner. C'est une partie difficile de votre travail.
Ça peut être au tout début, quand j'ai commencé à faire des actions avec Disco Soup, un petit peu. Aujourd'hui, il y a une. Enfin, en tout cas, je travaille beaucoup avec. une ancienne de supermarché qui a vraiment très envie de
mettre... Vous pouvez les citer.
D'accord, c'est Monoprix, qui a vraiment envie de trouver des solutions sur le gaspillage alimentaire. Et donc, on collecte les fruits chez eux et on revend aussi nos confitures dans les mêmes magasins. Donc, on fait vraiment une boucle complète. C'est ça qui est intéressant.
C'est un cercle vertueux.
Des choses graves, c'était les Kings of Convenience, c'est leur titre. Attention, je parle en anglais. Failure.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Dites-moi, Colette, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivée à faire de la cuisine alors que vous avez fait une école de commerce au départ ?
C'est un peu par le projet des confitures et du coup, je me suis vraiment intéressée à ce domaine de la transformation alimentaire. J'ai fait un CAP cuisine avec la mairie de Paris pour vraiment me sentir à l'aise dans une cuisine professionnelle et pouvoir aussi transmettre des gestes aux salariés avec lesquels je vais travailler vraiment pro. Voilà.
Et ce CAP que vous avez fait à la mairie de Paris, vous êtes donc retrouvé avec des gens venus de tous horizons. C'était quelle ambiance hein?
On était plutôt tous en reconversion.
C'est quand même difficile d'être en reconversion à 24 ans.
Je reconnais.
Ouais, mais c'était. On était tous. J'étais dans les plus jeunes, mais on était tous quand même en. en fin d'études. Enfin, il y avait un doctorant qui venait de finir son doctorat. Enfin, on était tous...
Et vous aviez fait une filière d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat social ?
Oui, j'ai fait une école de commerce.
Mais en entrepreneuriat social, ou ça n'a
rien à voir ? C'était plutôt généraliste. Et du coup, je savais que je voulais faire du social. Donc, j'avais pris les matières les plus sociales, mais c'était plutôt généraliste.
C'est quoi les matières les plus sociales dans une école de commerce ?
La responsabilité sociétale des entreprises, le management des changements. Il y avait de la microfinance aussi.
Il y a tout un secteur de l'économie sociale et solidaire. Je crois que très prochainement, ils ont même leur semaine. Comme l'émission est enregistrée, pour tout vous dire, je ne suis pas sûr que ça ne sera pas en même temps que sera diffusée l'émission.
Le mois de l'ESS, pendant tout le mois de novembre.
On est en plein dedans, ça va. Donc, j'avais pas besoin de trahir mes secrets. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres entreprises sociales et solidaires ? Est-ce qu'il y a... On va dire comme une sorte de fraternité d'entreprise, là où peut-être les entreprises du privé sont plus dans la concurrence.
Oui. Une solidarité, vous voulez dire ?
Voilà, une solidarité.
Je parlerais plus de coopération. Aujourd'hui, nous, on est hébergés par une entreprise d'insertion qui a été créée il y a 3 ans. On travaille beaucoup avec d'autres entreprises d'insertion qui sont à Romainville ou dans le 93. Et puis, on travaille sur un secteur qui est le traitement des déchets et l'économie circulaire, où il y a beaucoup aussi de structures d'économie sociale. Et c'est assez émergent, donc il y a beaucoup d'échanges entre les structures.
Et quel est le revenu, en fait, moyen ? Quel est le bénéfice moyen, en fait ? Combien vous pouvez avoir d'employés ? Est-ce que c'est des emplois aidés ? Est-ce que c'est vraiment...
Le but, c'est vraiment d'avoir un modèle économique viable avec ce qu'on crée. Donc, il n'y a pas de revenu moyen. Ça dépend du type d'entreprise. Nous, on est sur une entreprise de transformation. Il peut y avoir d'autres... il peut y avoir des entreprises de conseil dans l'économie circulaire qui vont avoir tout à fait un autre modèle économique. Mais,
Et là, vous n'avez pas encore d'employé ?
Là, on a une personne qui travaille... Enfin, on est 4 sur le projet. On est tous salariés, mais on a encore aujourd'hui des subventions.
Salariés à combien par mois ?
Là, moi, je suis à 1005 par mois.
Et vous êtes la directrice ?
Oui.
C'est vachement bien payé. Ça a eu le coup de faire une école de commerce. Vos parents sont fiers ?
Oui, parce que le projet est intéressant et que... Mais oui, après, de toute façon, dans l'ESS, en général, les salaires sont un peu plus bas.
Finalement, c'est en fait une autre vision de la vie que vous défendez.
C'est ça. Enfin, de toute façon, je savais depuis le début que mon envie, c'était de travailler sur un projet à fort impact social, où j'étais utile pour la ville dans laquelle je vivais. Et donc, le salaire, c'est pas forcément ma priorité.
Franck Chéniaud, vous venez de nous rejoindre finalement.
Exactement, excusez-moi, je suis un peu en retard.
Après bien des tracas, mais ce n'est pas grave. L'essentiel est que vous soyez avec nous. Vous avez fondé, alors je crois en 1984, les Tables de Cana. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle disposition d'esprit vous étiez à l'époque ?
Oh oui, ça, je me rappelle dans quelle disposition d'esprit. J'étais dans la disposition de fournir du travail à des sans domicile fixe, à des clochards que je rencontrais dans l'association La Margelle. Et qui me disaient qu'ils voulaient travailler, mais à leur rythme, hein, pas récupéré par le système comme je l'étais. Ils ne voulaient pas travailler dans le
système. Parce que vous étiez ingénieur à l'époque. Hein.
Voilà, j'étais ingénieur chez Total en informatique. Alors, je pouvais peut-être leur trouver du travail dans l'informatique, mais c'était l'époque où il y avait un plan social, donc il n'y avait pas beaucoup de travail dans l'informatique. Et puis pour eux, c'était quand même pas très adapté que l'informatique. Alors, j'ai eu beaucoup d'idées que je proposais à ces clochards. On pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de l'activité traiteur. On m'a dit, oh, mais ça, c'est génial, la bouffe, rudement bien. Et puis ensuite, c'était du travail épisodique, c'est ce qu'ils voulaient. Donc, je me suis lancé, grâce à eux, dans cette activité traiteur, monteur, organisateur de réception.
Et à l'époque, il y avait un secteur. Le secteur de l'économie sociale et solidaire n'était pas très développé.
C'était pas connu. Même après, en 89, je suis devenu entreprise d'insertion. Mais ça, c'était pas connu non plus, les entreprises d'insertion. Quand j'ai démarré. Comment dire ? Ah, il aurait fallu que je prépare mes dossiers. Enfin, il y avait tout un domaine qui s'était préparé, où il y avait des travailleurs sociaux qui avaient créé des formations pour les gens en difficulté. Voilà. Et donc, il y avait un mixte entre la formation et le travail, et c'est dans cette ligne-là que je me suis positionné. Mais le concept d'économie sociale et solidaire n'existait pas encore.
Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres qu'on a trouvés sur votre site, vous avez 250 salariés en insertion aux Tables de Canard. Et en tout, il y en a combien qui sont passés
J'ai quitté en 2000 et quelques, il y en avait 4000 qui étaient passés. Donc depuis, en 16 ans, il y a bien dû au moins y en avoir autant et même plus.
Et pardon pour cette question très productiviste, mais sur ces 4000, pour qu'il y en a combien pour lesquels ça a été vraiment une réinsertion, qui ont retrouvé un travail après, qui ont pu, vous savez ?
Ah voilà, pour vous, réinsertion, ça veut dire trouver un travail. Bon, ah, effectivement, c'est d'ailleurs la norme de l'État actuellement. Ces entreprises d'insertion, parce qu'il y en a beaucoup en France, sont jugées par l'État dans la mesure où les gens retrouve un CDD, et l'idéal c'est un CDI, au moins pendant 6 mois. Donc c'est la remise, l'insertion c'est par la remise au travail. Moi j'avais un concept beaucoup plus large qui consistait à dire, dans la mesure où un type poursuit son projet, eh bien pour moi c'est une réussite. Par exemple, un RMiste, à l'époque c'était le RMI, maintenant c'est le RSA, qui me disait au bout de 15 jours, « Oh là là, mon assistante sociale m'a envoyé travailler à la Table de Canard, mais c'est horrible, là, je n'arrive pas. Bon, maintenant, je vais me suffire de mon RMI, et puis je vais dire que je suis inséré parce que je garde mes petits-enfants. » Eh bien, pour moi, c'était une réussite. Ou le type qui passait à la retraite, parce que je l'avais embauché pour avoir encore quelques mois avant de passer à la retraite, eh bien, pour moi, c'était une réussite. Maintenant, ça, c'est considéré par l'échec comme un échec par l'État.
C'est l'heure de la chronique d'Abine. Alors Abine, d'habitude, vous nous dites si c'était mieux avant. Mais il y a juste une chose là que j'ai remarqué en vous écoutant, c'est qu'avant, on parlait de clochard et maintenant, on a cet horrible cycle de SDF.
Voilà, oh, horrible, je ne sais pas. Mais...
Chers auditeurs, au vu de nos deux invités du jour, je me suis retrouvée face à un dilemme cornélien, parler de solidarité ou parler de cuisine. En fait, je suis désolée, vous m'avez beaucoup émue.
Bon, on va couper, on va reprendre, c'est pas grave.
Écoutez.
On peut le faire.
Il y a de l'émotion dans l'air, tant mieux, parce qu'effectivement, tout ce qui est du domaine de l'insertion, de la marginalité, ça touche les gens, et tant mieux.
Non, j'ai trouvé très beau votre façon de parler de la réinsertion. Donc je reprends, pardon, excusez-moi. Chers auditeurs, au vu de nos deux invités du jour, je me suis retrouvée face à un dilemme cornélien, parler de solidarité ou parler de cuisine. Mais comme le thème de ma chronique est de démontrer que ce n'était pas mieux avant, et au vu des résultats annuels des GAFA, de Vivendi, du programme libéral de François Fillon plébiscité, et des derniers résultats des études qui démontrent une concentration des richesses jamais atteinte encore dans le monde, 16 millions de personnes précaires et 6 millions vivant en dessous du seuil de pauvreté en France, j'ai cru bon de choisir la cuisine. Il y a plus de chances que je puisse démontrer que ce n'était pas mieux avant. Mais là encore se pose un problème. Si l'Escoffier, du nom d'Auguste Escoffier, appelé le roi des cuisiniers au 19e et début 20e siècle, est toujours une bible, si l'on se souvient toujours avec émotion dans les cours de cuisine de la mère Brasier, c'est parce que la cuisine, c'est toujours mieux avant.
Vous voilà donc nostalgique, Abline ?
Totalement. Avant que l'on grandisse et que l'on découvre le yuzu, qui semble aujourd'hui se saupoudrer partout à la place du citron de menton, avant que l'on ne paye soi-même un repas au restaurant, cet avant, c'est l'enfance. C'est l'odeur de la madeleine chez Proust et des tomates farcies de ma grand-mère chez moi. Avant que l'intégralité de nos cuisiniers moléculaires ou pas vous explique que l'important, c'est le produit. Ah, oh, je suis désolée, vous m'avez... pardon.
Et donc l'important c'est le produit, donc vous voilà. Pas tellement la cuisine moléculaire.
Non, pas tellement.
Vous aimez une cuisine généreuse, moi je connais votre cuisine Abine, je le sais.
Et le produit, parlons-en, pour peut-être que lui aussi était mieux avant, parce qu'aujourd'hui pour manger une pomme, cela peut vous tuer. Une étude démontre que la moindre pomme contient plus de 38 pesticides, le poulet que vous achetez relativement... rondelé peut être tout simplement gonflé à l'oxygène, en plus d'avoir été gonflé aux hormones pendant sa croissance. Aujourd'hui, vous trouvez des fraises en hiver et des kiwis en été.
Et oui, il n'y a plus de saison, ma pauvre Abine.
Et oui, la cuisine a envahi nos écrans télé. On vous y parle de dressage, de produits tout aussi purs que le sirop de glucose pour ne pas rater vos meringues italiennes. Et on vous y montre des grands chefs déstructurer le bœuf carotte ou réinterpréter la tarte au citron. Alors là non plus, je ne suis pas sûre d'avoir choisi le bon sujet pour dire que ce n'était pas mieux avant.
Mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ?
Je sais pas. Ah si, ce n'était pas mieux avant parce qu'avant, je n'avais pas pris un shoot de plaisir, de joie, de partage, de gourmandise. voire de goinfrerie en regardant Gérard Depardieu.
Ah, Gérard.
Ah ouais. Dans sa série sur Arte, croquer la vie à pleines dents. Parce que Gérard, ça m'a réconcilié avec la cuisine à la télé en rencontrant des gens qui cuisinent simplement, des gens qui produisent comme avant, des gens qui aiment et respectent autant leurs produits qui est leur création que les êtres humains avec qui ils la partagent. Je suis navrée.
Et voir Gérard
rire au Portugal devant des pastéis de nata, ça m'a mis la larme à l'œil, exactement comme là. Parce que la cuisine, c'est de la vie, c'est de l'amour, et ça, c'est pas mieux avant, c'est bien maintenant.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
L'un et l'autre, vous le vivez, vous, ce lien entre la cuisine et l'émotion ? C'est quelque chose que vous avez vécu, j'allais dire, dans votre vie.
L'émotion, je ne sais pas, mais l'affectivité, oui. Moi, j'ai toujours senti, enfin, d'ailleurs, les clochards dont je vous parlais, dès qu'on leur parlait faire la cuisine, ah oui, oui, c'est bien, ça la bouffe. Donc, il y a quand même une relation assez, alors moi, je dirais affective avec la bouffe. Alors après, qui peut-être pour les esthètes se traduire par de l'émotion, ça oui.
Et vous, Colette ?
Oui, et puis la cuisine, c'est la gourmandise, ça se partage toujours.
Vous avez choisi la confiture, un produit sucré, là aussi, qui voilà, évoque l'enfance et nos grands-mères aussi.
Et aujourd'hui, quand on cuisine à Romainville, à la fin, quand on a notre pot en main, on est tous, quelle que soit la personne qui cuisinait, hyper fiers de ce qu'on a fait. Donc, ça véhicule quelque chose.
C'était quelque chose d'important dans votre projet au départ, vous y aviez pensé?
C'était pas vraiment anticipé, mais c'est vrai que du coup, c'est aussi un peu ça la force, je pense, aujourd'hui de nos confitures.
Effectivement, moi, alors de ce côté-là, je trouvais que la cuisine, c'était très bon, par exemple, pour l'insertion, parce qu'il y a beaucoup de travaux simples pour faire du canapé avec un type.
On sent l'ingénieur, là.
Voilà, le type un peu minutieux, s'il a un chef de cuisine au-dessus de lui qui lui montre comment présenter un plateau, comment faire un canapé, comment napper, etc., comment établir un buffet, eh bien, il y arrive assez facilement. Et ça, c'est génial parce que pour faire passer par l'insertion, c'est beaucoup mieux que faire passer par la formation. Les gens, tout de suite, ils réussissent. Et puis, à ce moment-là, ils sont très motivés. Je me souviens qu'au début, comme je vous le disais, ils me disaient « Oh, nous, on veut un peu travailler à nos rythmes quand on en a envie. » Eh bien, après, quand ils réussissaient, plus ils travaillaient, plus ils étaient satisfaits. Et même, il y en avait qui faisaient des heures supplémentaires, tellement ils étaient heureux de travailler, grâce à du travail simple.
C'est quoi pour vous, en fait, réussir ?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est répondre à son projet de vie, c'est répondre au sens de sa propre vie. Mais alors, trouver le sens de sa vie, c'est difficile.
Pour vous, Colette ?
Oui, trouver un certain équilibre. Je pense.
Vous, Franck Chénion, je ne crois pas révéler un secret en disant que vous êtes prêtre par ailleurs.
Oui, oui, prêtre jésuite.
Et ce lien entre la religion, la nourriture, tout ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé ou c'est venu spontanément
L'étape de Cana. Il y a un autre lien, voilà, ouais, la table de Cana. Alors effectivement, je n'ai pas fait grand-chose.
Peut-être qu'il faut rappeler pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'était la table de Cana.
C'est le nom de cette entreprise, mais Cana, ça fait allusion aux noces de Cana.
Oui,
un célèbre tableau au Louvre, où c'est les noces de Cana, c'est-à-dire Jésus qui est venu invité par des amis. Et puis pendant le repas, à la fin du repas, il manquait du vin. Donc alors sa mère s'en aperçoit, elle va voir Jésus, elle lui dit « Écoute, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. » Il dit « Oh, écoute, maman, m'emmerde pas, c'est pas moi. » Enfin, il ne dit pas comme ça,
oui,
mais c'est pas mon temps est arrivé.
C'était le Christ.
Oh, Marie dit « Bon, elle va voir les serveurs. » Elle dit « Allez voir mon fils. » Alors, il dit « Bon, il faut que je travaille. » Et donc, le fils a dit « Remplissez l'eau d'eau légère et puis servez le... » Et c'était du bon vin. Voilà. Donc c'est le miracle
du travail aussi, il y a quelque chose
oui, c'est le miracle. Alors oui, c'est le miracle par le travail, c'est le passage de l'insertion à une vie retrouvée dans la société et puis c'est la fête, c'est le mariage, c'est la communication, c'est la réjouissance, voilà.
Oui, parce que vous avez choisi de faire un traiteur, oui. Qui a priori qui intervient pour des grandes occasions.
Grandes occasions, oui, ça c'est l'idéal, mais même des petites occasions, on peut servir une fête de famille, un baptême ou un repas amical.
Qu'est-ce que vous pensez du fait, tous les deux, que là, nous sommes en période présidentielle et à peu près tous les candidats nous vantent le retour au plein emploi. Ouais, c'est ça. Nous vantent le retour au plein emploi avec leur programme. Ah, ça vous fait déjà rire.
Je n'y crois absolument pas.
Et en fait, tous, depuis une dizaine d'années, alors que... on pensait qu'on allait aller vers une notion de progrès, etc., dans les années 70, 80, etc. Tous nous vantent un retour à la valeur travail, comme si on était de nouveau tous des ouvriers en 1960, sans d'ailleurs définir ce que c'est que le travail.
Ah ben, ça, je suis tout à fait de votre avis. Il faut revoir complètement la notion d'insertion. C'est-à-dire, on n'est pas inséré dans la société parce qu'on travaille. Travail, boulot, dodo, non. On est inséré dans la société parce qu'on trouve sa place au milieu du quartier, au milieu de la famille, au milieu de son ensemble. Voilà. Et avec des petites activités bénévoles ou des activités que peuvent faire des vieillards ou des activités que font les jeunes parce qu'ils se débrouillent, parce qu'ils magouillent. Eh bien voilà, ça c'est pour moi de l'insertion réussie.
Pour vous, Colette, ça vous fait envie le succès d'Étape de Cana? C'est un vrai succès quand même.
Ouais, oui, c'est un succès. Oh, oui, surtout qu'il y en a, deux à Paris, il y en a une grosse à Lyon, il y en a à Marseille, à Montpellier, à Nîmes, à Bordeaux.
Et vous êtes devenu riche?
Hein? Ben non, justement, c'est
vous
ça.
Vous auriez pu faire une start-up.
Non, mais justement, l'inconvénient, c'est que ces entreprises, ça ne vaut rien. Personne ne va vouloir acheter une table de Cana parce que ça ne rapporte rien. Tous les gens qui ont mis de l'argent pour faire partie de la SARL, ils savent bien que ça ne leur apportera pas un sou. Pourquoi? Parce que l'insertion, ça coûte très cher.
Une difficulté
et les subventions ne compensent pas le surcoût social que coûte l'insertion. Donc, c'est des entreprises qui ne rapportent pas d'argent.
Il y a un problème de pérennité donc du projet.
Ah oui, ça c'est un problème, oui.
Colette, on va vous laisser le mot de la fin. Malheureusement, on approche de la fin.
Pour moi, l'économie, enfin l'entrepreneuriat social, c'est vraiment un entrepreneuriat. On sait combien on doit faire d'argent pour pouvoir être pérenne. Et du coup, on n'est pas sur une montée toujours plus en puissance, mais on sait combien on a besoin pour créer tant d'emplois. Et c'est un peu ça aussi qui est intéressant.
Merci beaucoup à tous les deux. Vous venez d'écouter La Relève, une émission présentée, proposée, et puis même... mise en scène par Abeline et Christophe, à la réalisation cette semaine Jérôme, comme toutes les semaines. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, La Relève Radio Campus. Bonne semaine à tous et à dans 167 heures. Au revoir.
Ben moi aussi, je suis désolé.